Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Et de retour avec Emmanuel Combes, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School qui a coécrit le transport aérien à la découverte. Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Et Juan Tizon, directeur des études de l'Institut Sapiens qui a coécrit Un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez MA Édition. On referme, on continue sur la dette. Alors j'ai un auditeur qui, une auditrice qui dit non, c'est pas vrai que la dette n'intéresse personne. Je pense qu'elle n'intéresse pas grand monde. Mais en tout cas, on a renoncé à l'idée qu'on allait désendetter le pays à l'horizon 2027. Voilà.
Je dois dire, pardon, sur cette question de la dette, il y a quelque chose qui m'étonne. Hein. Je sais pas pour être pour l'un ou pour l'autre. C'est que à partir du moment où nous avons un taux d'emploi qui remonte, un taux de chômage qui baisse, on devrait
Il augmente le taux dans le chômage, malheureusement.
Oui. Et là, il y a un petit retournement et on ne sait pas
si on était à 7,1, on est à 7,4.
7,5.
Donc, en tous les cas, on a à peu près créé 1 million d'emplois, grosso modo, 1,4 million. Bon, en tout cas, cette courbe-là a été, durant des mois, tout à fait positive. En bonne logique, ça devrait amener
en très bonne logique économique. On reste le troisième pays, le troisième pire pays de l'Union européenne.
Non, mais au-delà, pardonnez-moi, juste pour aller au bout de mon raisonnement.
Troisième en termes de taux de chômage.
Troisième, en partant de la fin.
Oui. Troisième. Oui, mais j'ai bien compris. Oui.
S'il y a plus d'emplois,
on a 4 points en dessous de la moyenne quand même.
S'il y a plus d'emplois, il devrait y avoir plus de croissance. S'il y a plus de croissance, on devrait avoir un accompagnement.
Vous allez nous amener sur le terrain de la productivité.
Mais effectivement, avoir.
S'il y a tant d'emplois créés, c'est probablement notamment à cause des pertes de gains de productivité.
Bien sûr, tout à fait.
C'est la mauvaise raison de la baisse du chômage.
Mais en l'occurrence, c'est ce qui est un peu fascinant. C'est la mauvaise surprise de la politique économique qui a été menée, qui est globalement une politique économique que l'on peut, ici, autour de la table, approuver. On a poussé tout le monde vers le travail, et tant mieux, et j'espère qu'on va continuer. Ça devrait globalement amener plus de croissance, amener davantage de recettes dans les caisses de l'État, amener à accompagner moins socialement les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et donc tout ça devrait faire reculer mécaniquement notre dette de manière structurelle. Et ça ne le fait pas. Et je dois dire, quelque part, c'est comme si tout le pari de la politique économique du gouvernement n'arrivait pas au résultat escompté. Non. Et ça, je dois dire, c'est une surprise que je veux bien partager avec le gouvernement, dont je trouvais
que la stratégie, la stratégie, l'effet vertueux de 10 ans de politique de l'offre aurait dû à terme se voir dans le ratio dette sur PIB.
Absolument. Parce que il ne se voit pas. Bon. Et je dois dire que là, il y a quelque chose qui fonctionne pas.
Eh ben, tu as la réponse dans mon analyse, qui est l'économie politique de la dette. Quelle est l'incitation quand tu fais des... Alors, tu vas faire des efforts, tu vas diminuer tes déficits et tu vas donner un bon bilan au successeur pour un peu que ton successeur soit ton adversaire politique. Si tu as de fortes chances de perdre l'élection, tu as même plutôt intérêt à faire la vertu.
Tu peux comprendre économiquement pourquoi ça ne fait pas.
Tu pars du principe que le décideur politique est altruiste, il fait de la politique. Enfin, c'est honorable, je ne suis pas en train de désinguer les politiques. L'homme politique, son horizon, c'est l'élection. C'est pour ça que toutes ces thèses qui consistent à dire on va faire des programmes, nous économistes, nous recommandons des programmes pluriannuels de réduction à la dépense publique. Quel homme politique s'inscrit dans cette logique? Je suis désolé de le dire, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Pardon, un homme de ça est documenté depuis 50 ans.
Je voudrais, Emmanuel, comprendre pourquoi...
Tu n'as pas d'incitation à faire de la réduction des déficits budgétaires, sauf sous la contrainte. Donc, si tu es vertueux...
Non, pardon, Emmanuel, c'est un autre sujet. Le fait de réduire la dépense publique qui est une priorité que nous partageons. Et il n'y en a pas eu suffisamment. En revanche, le fait d'avoir davantage de travail dans le pays aurait dû amener davantage de recettes et aurait dû mécaniquement...
Mais si ces recettes, tu les dépenses. tu as plus de recettes, mais tu les dépenses aussi, car tu as une incitation naturelle à faire de la dépense publique. Toute l'hypothèse de départ de l'école des choix publics, c'est de dire l'incitation de l'homme politique, c'est de faire de la dépense publique pour des raisons électorales. Et tu me réponds, bah non, s'il est vertueux, ça devrait baisser. Mais pourquoi serait-il vertueux? Mais son but, c'est d'être réélu.
Parce qu'on a créé un million d'emplois, et ce million d'emplois
oui, mais
aurait dû créer...
Il y a deux choses là-dessus. Pour compléter le très bon papier d'ailleurs qu'avait écrit Emmanuel sur le sujet, il y a, regardez, au 1er février, on a augmenté de 14 milliards les dépenses de retraite. Derrière, on est en train de rogner un petit peu partout, que ce soit sur la formation, que ce soit sur la rénovation thermique des bâtiments, etc. Enfin, on diminue l'augmentation, mais donc du coup on se dit il vaut mieux avoir effectivement des dépenses qui soient à effet immédiat, et quand c'est immédiat c'est le 9 juin, plutôt que des choses effectivement sur 5 à 10 ans. Baisser les dépenses de formation, moi je trouve que c'est profondément scandaleux, les dépenses de recherche c'est pareil, parce que c'est de la croissance pour les 5, 10, 15, 50 prochaines années. Ils votent pas les enfants, c'est un vrai problème qu'il y a aussi. La question de la productivité aujourd'hui, et je pense que ça devrait être au cœur justement de notre réflexion économique, on a créé effectivement 1,4 million d'emplois, mais ça se voit pas aujourd'hui notre croissance. On a une croissance qui est complètement atone, qui reste supérieure à celle de certains de nos voisins, mais qui reste complètement en deçà de ce qu'on pourrait envisager. Je pense que cette question de la productivité, on l'a pas suffisamment prise au sérieux. Et moi, une des causes, nous, on l'a renseigné, on a identifié 8 causes différentes.
Je me souviens, on les avait détaillées une fois.
Pas le refaire là, mais pour moi, la cause la plus importante, c'est la formation. Il y a une baisse de 18% des entrées en formation des actifs depuis 2018. 18% des entrées en actifs en moins. Sachant qu'on était un des pires pays d'Europe avant, et donc du coup on fait encore moins que notre niveau le plus bas. La raison elle est laquelle? On a fait une très très bonne réforme, la réforme Pénicaud, qui a été faite notamment pour les outsiders. Elle a fait rentrer énormément de personnes dans la formation professionnelle, mais elle n'a pas mis à jour les compétences des personnes qui sont aujourd'hui en emploi. Or, dans une période de mutation technologique absolument incroyable, où on a besoin de se former, on a besoin, ne serait-ce que pour rester en poste, vous avez des qualifications qui s'opèrent aujourd'hui, on a besoin justement d'avoir cette mise à jour qui se fait. Et des fois, les études économiques montrent, et économétriques montrent, qu'une formation de 4 heures par semaine, réalisée 15 jours par an, ça permettait d'augmenter la productivité du salarié de 1%, ce qui est quand même pas neutre, hein, quand on regarde un point de vue macro. Et la moitié de cette augmentation de productivité est captée par le salarié en augmentation directe de salaire. Donc là, on résout deux problèmes structurels qui sont la croissance et le pouvoir d'achat, juste avec 4 heures de formation. Le problème, c'est que là, on est en train de chercher de faire les fonds de tiroir, parce que justement on a décidé d'augmenter de 14 milliards, et encore une fois c'est pas de l'anti-retraité de primaire, hein, d'une haine de retraité ou quoi que ce soit, non, c'est juste de se poser la question. Comme le disait Emmanuel avant, chaque euro qu'on investit aujourd'hui, où est-ce qu'il pourrait être le mieux utilisé? Je persiste à croire que mettre 14 milliards d'euros dans une population qui a un taux d'épargne de 28%, encore une fois en moyenne, effectivement, il fallait faire un geste pour les petites retraites, mais quand vous gagnez 6 000 euros par mois, qu'en plus vous avez un taux de CSG inférieur à l'aide-soignant qui est à 1 300 euros, je pense qu'une augmentation de 5%, c'était peut-être pas ce qu'il y avait à faire, qui avait plus de pertinent d'un point de vue économique. Là, c'était de l'achat de voix. Et ça devrait peut-être être. Je pose la question de manière un petit peu humoristique, mais peut-être qu'on pourrait même le rajouter au compte de campagne de tous les partis qui l'ont soutenu, parce que toute la classe politique a soutenu.
Nicolas,
et pour finir là-dessus, je pense qu'on ne s'en sortira pas sans justement grand plan sur la formation professionnelle pour les actifs et aussi pour tous les demandeurs d'emploi. On est en train de créer avec France Travail, on est en train de mettre 1,6 million d'allocataires du RSA. Quand vous prenez les 1,2 million d'allocataires du RSA qui ne sont pas encore en emploi, plus les 300 000 personnes qui sont justement allocataires de la ASS, et ces personnes-là vont grossir les rangs du chômage. Donc mécaniquement, on va avoir une hausse du niveau de chômage qui va atteindre quasiment 9% à la fin du quinquennat. Donc politiquement, là pour le coup, il y a une vraie incitation, si on veut avoir un héritage, enfin laisser un bon héritage, qui est de se dire, il faut peut-être que ces personnes-là rentrent très rapidement en emploi. Comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer ces personnes-là en emploi? Il faut de l'accompagnement presque individuel. Une étude a été publiée par la DARES au mois de décembre dernier qui montre que 3 allocataires du RSA sur 10 qui étaient allocataires du RSA déjà en 2010 le sont encore. C'est-à-dire que vous avez 30% de ces 1,5 million de personnes qui sont en inactivité depuis plus de 10 ans. Ces personnes-là ne sont pas par choix. Ces personnes-là ne sont pas par choix. Le problème, c'est que ces personnes-là, vous ne pouvez pas leur donner un emploi tout de suite. Vous pouvez pas leur dire, il y a un emploi, il y a, on cherche des plongeurs, on cherche des cuisiniers dans le resto d'en bas. Il faut y aller. Non. Il faut un travail de resocialisation. Il faut un travail de, tout simplement, de, pour leur redonner confiance en eux et leur réapprendre les compétences de base. Et ça, ça ne se fera pas sans moyens. Et donc, la vraie politique publique consisterait à dire, je prends effectivement là où j'ai besoin de prendre. Donc, c'est sur la classe la plus riche, qui sont les retraités. Et je mets le paquet sur la formation. Si jamais je n'arrive pas à faire ça, malheureusement, non seulement la dette publique sera très élevée, mais le taux de chômage sera très fort aussi. Et je terminerai sur un dernier point. Ce qui différencie l'homme politique de l'homme d'État, l'homme politique pense à la prochaine génération, à la prochaine élection, l'homme d'État à la prochaine génération. Gerhard Schröder, je me rappelle quand il a, on peut penser ce qu'on veut de lui après sa reconversion post-gouvernementale, mais il a accepté justement de perdre son élection, de perdre sa réélection pour sauver son pays. Je pense que certains hommes politiques seraient peut-être avisés de faire la même chose aujourd'hui.
Emmanuel Combe.
Vraiment, pour clore le sujet, je suis étonné que dans un pays comme la France, où quand même la hausse de la dette publique du ratio est continue, hein, par escalier, mais continue depuis 50 ans, il n'y ait pas une personne qui s'est dit à un moment donné, c'est peut-être pas mal d'aller regarder ce mouvement de l'économie politique de la dette qui vous explique ça depuis 50 ans. L'idée que un pays naturellement, et tant mieux, c'est une grande démocratie, hein, c'est le jeu démocratique, hein, est incité naturellement à faire de la dette publique, et finalement il n'y a que des forces de rappel extérieures qui peuvent la contraindre, dont les agences de notation.
Bon, on verra les premiers avis d'agences de notation, c'est le 26 avril avec Fitch et Moody's,
oui, je crois que
Standard & Poor's sera le 31 mai. Je vais passer la parole à Leonidas qui va nous éclairer sur l'EUCS. Alors moi j'ai appelé ça la future norme européenne de sécurité cloud qui vise la souveraineté numérique.
C'est la suite, mais c'est un très bon résumé.
Et donc la commission débat aujourd'hui.
Oui, parce que il y a en fait l'enjeu, c'est une négociation entre les États-Unis et l'Europe sur les normes de cybersécurité autour des données qui sont dans le cloud. Et en l'occurrence, comment est-ce que l'on fait, comment est-ce que l'on traite ces données? Et pour les États-Unis, récemment, il y a eu deux décisions qui ont toutes les deux quelques semaines ou quelques mois. D'abord, la prolongation du FISA, qui est le Foreign Intelligence Surveillance Act, qui a été décidé par Joe Biden et qui donne davantage de pouvoir à ses services de sécurité pour aller regarder toutes les données personnelles, même lorsque elles sont présentes dans d'autres pays, avec cette règle de l'extraterritorialité des pouvoirs qui sont donnés aux administrations américaines. Ça veut dire que lorsque on met dans un cloud qui est un cloud américain les données sensibles des citoyens européens, eh bien, elles peuvent être regardées à n'importe quel moment si on considère, si les États-Unis considèrent que leur sécurité est en jeu. Et puis, deuxième élément pour lequel Joe Biden a pris une décision qui date d'il y a quelques semaines à peine, c'est un executive order qui interdit désormais radicalement les transferts de données des Américains vers d'autres pays parce que l'on est rentré dans un moment de tension géostratégique et donc de manière extrêmement responsable, le président américain dit nos données de nos citoyens, on les préserve. Et dans ce même temps, les Européens devraient avoir quelque chose de symétrique.
Mais j'ai envie de vous dire que basiquement et naïvement, j'imagine qu'on retrouve certains de ces éléments dans ce projet qui va être débattu par la
Commission.
Eh
bien non, vous avez un rapport qui a été rendu le 22 mars dernier et qui est débattu aujourd'hui au sein de l'Union européenne, pour lequel d'ailleurs le CIGREF, qui rassemble les grandes entreprises et grandes administrations utilisatrices de services numériques, a tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière, et l'Open Internet Project que je dirige emboîte le pas aujourd'hui, pour tirer cette sonnette d'alarme, parce que on a retiré toute exigence de souveraineté sur les données européennes par rapport à tout ce niveau de sécurité maximale et élevé. Donc, il s'agit de données sensibles, les données de santé, les données de sécurité, les données bancaires. Toutes ces données sensibles devraient avoir, en bonne logique, une règle de souveraineté imposée.
Et c'est ce qui est indiqué dans l'IA Act européen. On a mis différents niveaux de surveillance et de sensibilité des données jusqu'à un niveau 3 qui est, mais, je ne sais plus quel est l'adjectif, mais intouchable.
Oui, mais vous avez raison par rapport aux exigences que nous imposons à nos propres entreprises. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de voir quels sont les degrés de sécurité pour les acteurs européens qui veulent se positionner, eh bien, on les met à l'échelle maximale. Et là, lorsqu'il s'agit d'imposer des règles de sécurité de même niveau pour éviter les transferts de données entre et l'utilisation de nos données par les États-Unis, parce que principalement les acteurs américains dont il s'agit, on a totalement baissé la garde.
Et donc vous me dites qu'on est en train d'abdiquer une fois de plus.
D'abdiquer totalement et d'abdiquer à un moment qui nous ramène à nos premiers sujets de géostratégie. On a vu disparaître cette exigence au même moment que se nouaient les accords autour de l'utilisation du gaz américain pour remplacer le gaz russe. On ne peut pas sur un moment de géostratégie comme celui-ci, considérer que nous passons des accords, j'allais presque dire dans le dos de tous les citoyens européens, dans une espèce de grande négociation globale entre l'énergie, les données et l'armement, en donnant la totalité des clés de nos données aux Américains. C'est un moment d'alerte. Ça se discute aujourd'hui et il est temps qu'on se ressaisisse parce que, en l'occurrence, c'était dans la feuille de route de la Commission européenne. La disparition de ces exigences était aujourd'hui une véritable trahison en race campagne de ce qui était attendu par l'ensemble des acteurs et ensemble des acteurs officiellement publics comme
si
privés.
Si je vous suis bien, ça signifie qu'une fois de plus, les Américains ont le leadership et vont le garder.
Bien, écoutez, une fois de plus, il faut tirer la sonnette d'alarme et continuer à se battre.
Sujet, moi, je le connais pas dans sa complexité, le sujet de cette
EUCS.
J'avais l'impression que l'IA Act était déjà effectivement plus un bâton dans les roues des entreprises européennes qu'une véritable protection de la souveraineté de ce qui se passe en Europe par rapport aux États-Unis. Vous voulez réagir sur le fait que c'est les Américains qui ont le dernier mot?
Oui, je voulais élargir au-delà de la régulation, ce qui est assez impressionnant, sur l'IA générative. Hein. C'est qu'en fait, on voit que déjà, quand vous prenez la chaîne de valeur, qu'il y a les puces, le cloud, les données, et puis les applications, vous prenez les trois premiers maillons de la chaîne de valeur, bah, c'est un monopole hein, pour les puces, Nvidia, et ensuite, ce sont des oligopoles, essentiellement américains. Et alors, donc, il y a une grande différence, je trouve, entre cette nouvelle bataille technologique de l'IA générative et celle qui a eu lieu il y a 30 ans, 40 ans, c'est qu'à l'époque, Google, Amazon étaient des nouveaux entrants, hein. Aujourd'hui, on démarre sur une nouvelle technologie déjà avec des entreprises extrêmement installées. Ce qui veut dire que l'Europe, finalement, il lui reste presque plus qu'une chose, c'est la régulation. Ou alors, encore des espaces de concurrence en aval dans les applications. Puisque l'IA générative, il va falloir développer des applications très spécialisées en droit, en santé. Mais on a déjà, me semble-t-il, un peu perdu la bataille sur l'IA générative en termes de langage, de grands modèles de langage. C'est essentiellement.
On a des entreprises exceptionnelles en la matière.
En aval. Je parle pas de l'aval, je parle de l'amont. Tu regardes les grands modèles de langage, pardon, ChatGPT, c'est pas européen, Gemini, c'est pas européen, Anthropic, ça n'est pas européen. Par contre, tu as raison, quand on va en aval, là, il y a peut-être un foisonnement, ce qui fait que les autorités de concurrence sont très attentives à tout ce qui va se passer dans les applications et notamment les accords qui vont pouvoir être noués entre les géants en amont et ces petites entreprises en aval. Et par exemple, l'autorité anglaise publie des travaux très intéressants sur les risques de prise de participation dans ces petites entreprises, justement, qui, elles, viennent disrupter le marché avec des nouveaux modèles économiques. Mais pour rejoindre sur ce que disait, rejoindre Leonidas sur le point, on voit à nouveau que sur cette bataille-là de l'IA générative, ben, on est quand même en retard. Et on est en retard pour une bonne raison. Enfin, on n'en parlera pas ce matin, mais il y a un superbe rapport dont personne n'a parlé, qui est sorti il y a 4 jours de Jean Tirole, qui vous dit l'Europe est très bonne dans le mid-tech. Le prix Nobel qui vous dit ça. On est mauvais dans la high-tech. Il regarde les brevets. Combien de brevets on dépose dans les logiciels? Combien de brevets on dépose dans l'IA? Dans les biotech? On n'est pas bon. On n'est pas bon. Parce qu'en fait, on fait de l'innovation incrémentale en Europe. Il vous dit là, on innove le plus. Pardon, j'ai le plus grand respect pour l'industrie automobile. C'est l'industrie automobile. On améliore ce que l'on sait faire. On ne sait pas faire de la disruption. On ne sait pas faire d'innovation radicale. On met pas les moyens. Bah, à la fin des fins, quand on sait pas faire d'innovation radicale ou très peu, eh bien, vous avez pas d'IA générative, etc. Donc, tout ça a quand même des causes profondes. Et la cause profonde, c'est d'abord insuffisance de R&D privée. Mais au-delà du montant de la R&D, c'est la destination de la R&D. Et Tirole vous dit finalement, on explore des choses qu'on connaît déjà.
Oui.
Ce qu'il appelle la dépendance au sentier. Mmh. On va continuer à améliorer nos technologies automobiles et tant mieux.
C'est vrai.
Mais tous les euros que vous investissez là, vous les mettez pas dans des startups,
dès qu'on a
d'IA.
Un projet innovant, on vous dit.
Et moi, ce qui me. Alors, le problème, c'est que. Alors, vous lirez.
Oui, un tout petit peu.
Parce que je vais revenir sur. On dit toujours l'Amérique innove, l'Europe réglemente.
Innove radicalement.
radicalement et l'Europe réglemente. Mais moi, à chaque fois que l'Europe réglemente et que j'ai sur ce plateau des connaisseurs de la, dans la complexité de ces réglementations, ils ont généralement toujours un avis opposé à la réglementation que les Européens préparent. Que ce soit vous aujourd'hui, Léonidas Kologiropoulos, ou André Lezecroupe-Pietri qui connaît par cœur ces sujets d'IA et qui dit fausse route, fausse route, fausse route, fausse route, mauvaise décision, mauvaise réglementation, la bataille est perdue ou elle est en passe de l'être. C'est toujours la même. Alors je me dis, mais bon, il y a un moment, je me dis, mais que font ces gens à la Commission de Bruxelles? Sont-ils complètement aveugles? Sont-ils complètement soumis? Je ne sais pas.
Juste un point pour prolonger ce qu'il a dit, notamment sur les automobiles. On a la prochaine innovation, c'est celle de le véhicule autonome. En tout cas, c'est là où il va y avoir un bascule total de la valeur de la voiture, où 80% de la valeur de la voiture, ce sera le logiciel embarqué. Et le reste, du coup, sera marginal dans le prix de la voiture. On a eu les premiers brevets qui ont été déposés sur la véhicule autonome, en Europe quand même, notamment en France. Vous avez quand même quelques ingénieurs qui sont partis il y a quelques années travailler chez Navia. Le problème, c'est que cette technologie-là, quand on a voulu la tester, ça se teste sur route ouverte ou route fermée. En tout cas, ça se teste grandeur nature. Ça ne peut pas se tester en laboratoire. La plupart des politiques, la plupart des autorités, des administrations ont dit non, on ne vous autorise pas des tests parce que justement ça peut être dangereux. Si demain on a un accident, qu'est-ce qu'on fait? Il s'est trouvé que les États-Unis ont eu une totale autre stratégie, notamment la Californie, qui elle a ouvert plusieurs millions de kilomètres de routes en circuit. Donc c'est des petites routes, mais qui permettent de rouler plusieurs millions de kilomètres dessus et qui ont dit allez-y, vous faites tous les tests que vous voulez. Et donc du coup, ils ont attiré énormément d'ingénieurs. Et de l'autre côté, vous avez la stratégie chinoise qui a dit allez-y, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez sur route ouverte et s'il y a des accidents, on gère. Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc le problème, c'est que nous, on est souvent, et quand vous regardez la plupart des innovateurs, je parle bien des innovateurs, des ingénieurs au niveau mondial, sont souvent de nationalité européenne et très souvent française, mais ils s'exportent ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a une régulation ex ante qui est extrêmement forte, alors que d'autres pays ont une régulation ex post avec la logique de bac à sable, en disant vous avez une très bonne idée, testez-la. On va par contre encadrer le test et encadrer l'expérimentation. Et après, on verra. On a quand même mis un droit à l'expérimentation dans la Constitution qui permet à toute entité locale de pouvoir déroger au droit en vigueur pour une période test pour expérimenter une certaine technologie. On ne l'utilise jamais. C'est quand même dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de technologies sur l'IA, sur les véhicules autonomes, sur les batteries, sur la cybersécurité qu'on aurait pu tester de manière in vitro au niveau local, encadré, mais en tout cas en disant aux ingénieurs et aux scientifiques, amusez-vous. Amusez-vous, faites ce que vous avez à faire en sécurité et on verra après. Et
Emmanuel Combes, allez-y.
Nicolas, je rebondis sur ce que vous disiez. Il y a aussi un problème de gouvernance de la politique de recherche en Europe et c'est ce que montre aussi Tirole. Il dit en fait trop de, entre guillemets, fonctionnaires et pas assez de scientifiques et il compare avec la DARPA, enfin les programmes américains, mais c'est radicalement différent. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'innovation radicale? C'est de l'expertise. Moi, je suis incapable de dire.
C'est une des grandes idées de Philippe Aguillon, là.
Voilà, moi, je suis incapable de dire si telle technologie est porteuse ou pas. Je suis pas scientifique. Et donc, aux États-Unis, on a un poids du scientifique dans la décision et notamment dans le suivi des programmes, parce que le grand enjeu, c'est de savoir arrêter aussi un programme quand ça marche pas. Et Tirole vous montre bien qu'en Europe, on a, comme vous le disiez, Nicolas, une approche plus, entre guillemets, fonctionnaire. Donc il y a aussi, non seulement on dépense pas assez, on dépense pas forcément dans les bonnes technologies, on fait de l'innovation, faut pas dire qu'on innove pas en Europe. Ah oui, on innove de manière incrémentale et peu radicale. Mais surtout, on gère mal la gouvernance. Il faut faire plus confiance à ceux qui savent. Et oui, ceux qui savent, pardon, ce sont les experts. Les experts, ce sont les scientifiques. Et quand vous mélangez tout ça, bah, Tirole arrive à une conclusion que je trouve très dure. Il dit l'Europe est le royaume des mid-tech. C'est-à-dire, on est bon, mais on n'est pas dans la disruption. Or, qu'est-ce qui pousse la croissance? Et ça rejoint un peu ce que dit aussi Erwan sur la productivité. À la fin des fins, c'est quand même l'innovation radicale. C'est-à-dire les nouveaux entrants. C'est les nouveaux entrants qui tirent la productivité. Et en Europe, d'ailleurs, les programmes de recherche sont plutôt dédiés aux PME. Mais c'est pas parce qu'on est une PME qu'on est un nouvel entrant. On peut être une ancienne PME. Les gains de productivité, ça c'est démontré économiquement.
Non, mais d'ailleurs, les gains de productivité américains sont là.
Mais c'est les nouveaux entrants, c'est ça qui est important. Voilà, c'est pas les insiders.
C'est même d'ailleurs les prévisions.
Et c'est pas une sorte de taille. C'est pas la PME qui est productive.
Bon, je sais pas sur quoi vous voulez réagir.
Juste un tout petit point de discours avant sur la DARPA, il y a aussi un truc, on avait fait une étude sur le sujet. Ils prennent dans leur comité de sélection, ils ne prennent que les projets qui ont 97% minimum de taux d'échec.
Échec.
En théorie. Entre 97 et 98%. C'est-à-dire que tout le reste est confié au privé et la puissance publique, en tout cas parapublique, s'occupe que des projets qui sont définitivement presque aucune chance de sortir. Vous en faites 1000 et vous allez en sortir que 3 ou 4, mais sur les 3 ou 4 que vous sortez, ça donne le vaccin Covid, ça donne Nvidia, ça donne les micropuces, etc. C'est aussi une logique d'aversion au risque à changer. En
tous les
France.
Cas, vous aurez noté, puisque vous vous intéressez à la voiture autonome, que les dizaines de milliards qui ont été investis aux États-Unis sur la voiture autonome n'ont débouché sur strictement rien.
Non, c'est faux.
Non, ça ne fonctionne pas. Et pour celles qui fonctionnent.
Ils sont prêts. Waymo est prêt.
Et pour celles qui fonctionnent, ça fonctionne avec quasiment une sorte d'accompagnement comme des drones. Dès que vous avez une voiture qui s'arrête, s'arrête. Ce sont des équipes, comme on faisait avant, la relation client avec des gens qui sont en back-office pour prendre la relève et qui prennent la commande de la voiture pour la sortir d'un moment d'impasse.
Waymo est prêt depuis 18 mois. Le seul truc qu'ils ont peur, c'est qu'ils savent très bien qu'ils sont prêts au niveau 5, hein, donc le niveau ultime. Il y a toujours une supervision à distance au cas où, heureusement. Et là où ils ont peur, c'est qu'ils se disent, de toute façon, le problème, c'est qu'on a du mal à modéliser le comportement d'autres automobilistes de manière sûre à 100%. Si demain, on a un accident de n'importe qui se fait avoir par une voiture autonome, ça fait le tour du monde. Et dans ces cas-là, on prend 10 ans dans la vue sur la technologie. Donc, ils attendent d'avoir la certitude la plus fine possible, mais les véhicules sont prêts. Waymo, c'est la filiale de Google qui s'occupe de ça. Ils ont réalisé plus de 50 millions de kilomètres de tests sur route ouverte avec un taux d'échec de moins de 0,1%. Ce qui est quand même assez, ce qui en dit, le premier constructeur derrière est à plus de 5% d'échec. Donc c'est la preuve aussi que les voitures autonomes demain seront faites non pas par des historiques des véhicules, mais bien par des nouveaux entrants sur cette technologie-là.
Moi, ce qui me désole, Léonidas, c'est que ces histoires de régulation en Europe, chaque fois que j'ai des experts pour m'en parler qui connaissent le sujet, ils me disent qu'on fait fausse route.
Non. Alors, je dois dire que je ne suis pas totalement d'accord du tout. Je suis pas d'accord avec l'idée que c'est systématiquement mauvais. En l'occurrence, sur la protection des données, nous avons amené notre industrie à être en pointe sur la capacité à imaginer des systèmes dans lesquels la captation des données n'est pas la condition à une économie et à une rationalité, j'allais dire économique, des solutions. C'est-à-dire que l'on a de la privacy by design, et on a de la privacy by design parce que nous avions une régulation. Et désormais, alors qu'au départ, la question de la protection des données n'était pas la première des obsessions, désormais on a des entreprises et des pays, des États qui demandent cette protection des données et demandent ces standards, et parce que nous nous sommes pliés à des règles dès le début, eh bien nos solutions
sont en pointe. Là, on a été au rendez-vous.
Là, je pense qu'on a été au rendez-vous, même si à l'époque, tout ce qui concernait la protection des données a été conspué, comme aujourd'hui d'autres réglementations que l'on met en place. Donc, et notamment celle sur l'IA. Sur l'IA, je pense qu'il y a un dosage à trouver. Il est indispensable de le trouver entre l'innovation et le fait de laisser effectivement les innovateurs aller au bout de leur recherche. Et effectivement des règles, parce que quand il n'y a pas de règles, on voit bien que l'on est en train, et on avait déjà un problème avec les droits voisins et Google, voisins, oui. Et on s'en souvient tous, parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore au bout de ce sujet, loin s'en faut. Et heureusement que l'autorité de la concurrence a été là et a été encore là il n'y a pas très longtemps pour imposer à Google le respect de ses droits voisins. Mais ça, c'était déjà avec le tout début de ce qui est, j'allais dire, la genèse de l'intelligence générative, lorsque Google reprenait des articles et en faisait des petits résumés. Alors, il faisait des résumés sans citer les articles. Ouais, et donc, vous avez finalement, pourquoi aller voir l'article si vous avez le résumé directement sur Google.
Si ça a marché, c'est peut-être aussi parce que les médias américains s'en sont émus de la même manière.
Eh bien, en tous les cas, sur l'IA générative, on est sur le même phénomène, puissance 10.
Emmanuel, vous voulez dire un mot? On a une minute 16. On pourra pas parler du CETA, on n'aura pas le temps.
Non, mais simplement pour dire que c'est une aberration pour moi, quand j'entends beaucoup d'hommes politiques dire l'Europe se tire une balle dans le pied parce qu'elle régule. Ça dépend. Il y a des bonnes régulations et des mauvaises. Il y en a une qui est excellente. Pour avoir de la croissance, il y a plein de facteurs, dont un qui s'appelle la concurrence. Donc, toute la régulation sur la concurrence. Heureusement qu'on a la politique de concurrence. Et les Américains se mordent les doigts d'avoir mis en sommeil leur politique de concurrence. Et même le DMA. C'est pas si mal que ça, le DMA.
Digital Market Act.
Exactement. Absolument. On va réguler un certain nombre de comportements, notamment pour permettre aux PME innovantes de ne pas être victimes de comportements, d'auto-préférences, etc. Donc, non, il n'y a pas de la bonne, il n'y a pas de la mauvaise régulation. Ça dépend de la régulation. Et celle qui concerne la concurrence, l'Europe devrait être fière d'avoir une politique de concurrence.
C'est que les mauvaises lois abîment les bonnes lois. Et de ce point de vue-là, effectivement, il faut, là encore, avoir un peu de discernement.
Bon, la prochaine fois qu'on se voit, je vous promets qu'on parle du libre-échange. Parce que Gabriel Attal a défendu le CETA, estimant qu'il était gagnant-gagnant, mais dans l'opinion politique, c'est quand même le réflexe protectionniste qui continue à l'emporter. Malheureusement, il ne reste qu'un second, on n'a pas le temps de développer le sujet. Merci Emmanuel Combes, Léonidas Kalogeropoulos, c'est Roi de Tison, et on se retrouve demain à 9h. Alors, quelqu'un me demandait pourquoi ce studio. On a un problème technique dans le studio principal qui sera bientôt réglé. On va réintégrer nos pénates très rapidement. On se retrouve demain à 9h.